Bonjour à tous, vous allez bien?
Oui.
Bonne fête aux mamans, de tout cœur. En principe, ma maman est là en plus ce matin. On n'a pas pu se voir. Ah oui, juste là. Merveilleux. Mes parents habitent à Rivière-du-Loup, donc c'est rare qu'on se voit à la fête des mères, n'est-ce pas? On est choyés, on va manger ensemble tout à l'heure. Connaissez-vous le conte de la Belle au bois dormant? Tout le monde a une version quelconque, là. Je pense qu'un des derniers films, c'était Maleficent, avec Angelina Jolie. C'est un vieux conte, en réalité. Hein. J'ai fait des petites recherches, ça remonte pratiquement au 15e siècle, même les premières apparitions de ce conte-là. Il y a toutes sortes d'origines différentes, même assez sombres parfois. Mais je pensais à ça lorsque j'étudiais le passage de ce matin, parce que souvent j'ai l'impression que l'Église est la Belle au bois dormant, puis qu'on aurait besoin de se réveiller. Au Québec, on a une expression lorsque t'es en train de circuler en voiture, puis la personne en avant de toi, tu sais, elle a de l'air de dormir au gaz. Voyons, il dort au gaz, lui, tu sais. Pèse sur le gaz, appuie sur l'accélérateur, en français. Est-ce que tu dors au gaz? Est-ce que t'es éveillé? On arrive dans une portion dans Romains 12, où l'apôtre Paul vient de nous présenter l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il va l'appeler ici les miséricordes de Dieu. Comment Dieu, pourquoi est-ce que Dieu nous a fait tant de miséricorde, tant de compassion, tant de grâce, tant d'amour, tant de pardon envers Israël, envers les nations? Paul vient d'exposer ça de manière extraordinaire. Et là, on arrive au chapitre 12 avec une mise en pratique. Et il dit « Donc, je vous exhorte par les compassions de Dieu, par l'Évangile. » Annick nous a rappelé la vision de cette Église, c'est d'être une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ. Moi, dans le mot « émerveillée », j'entends « veiller »,« éveiller ». J'entends aussi le mot « merveille », parce que les merveilles de l'Évangile sont censées nous empêcher de dormir au gaz, n'est-ce pas? De ne pas être la Belle au bois dormant. Bien, ce matin, que Dieu nous parle à travers ce très, très beau passage, Matthieu va nous lire deux sections dans Romains 12. Et moi, je vais vous inviter toute la semaine à prendre le temps d'aller lire et relire les exhortations de Romains 12. On va écouter la parole de Dieu ensemble.
Le passage de ce matin nous provient de Romains 12, les versets 1 à 3 et le verset 9 à 21. Dans la nouvelle édition de Genève, en Romains 12, 1 à 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et les versets 9 à 21. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. » Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien.
Matthieu. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pendant que je méditais sur le passage, je trouvais ça saisissant. Jésus va exhorter ses disciples. Dans les évangiles, Jésus va dire, « Si tu veux être mon disciple, tu vas mourir à toi-même. » L'image qu'il prend, c'est « Tu vas te charger de ta croix. » Et donc, c'est une image de mort. « Je vais mourir à moi-même. » Dans Romains, chapitre 6, Paul va dire de faire mourir les œuvres de la chair. Tout ce qui est en nous sont des tentations qui ne sont pas selon Dieu. Et donc, il y a cette idée qu'on est appelé à mourir. Mais quand j'arrive dans chapitre 12, toute l'exhortation est à la vie, à offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Et quand tu lis à répétition le chapitre 12, ce qui se dégage de ce chapitre-là, c'est de l'énergie. C'est de l'amour, c'est de l'action, c'est de l'affection, c'est de la joie même. Il parle de se réjouir en espérance, parce qu'on sait ce qui nous attend. Et je voyais tout le paradoxe qui est là. Oui, je suis appelé à mourir à moi-même, mais ce n'est pas pour une vie qui est terne. Le christianisme ne représente pas une religion terne, une religion de dogme, une religion de loi, une religion où on est dans l'abstinence perpétuelle. Au contraire, je suis appelé à mourir à certaines choses, mais pour vivre dans une abondance de vie. Ça fait quelques fois que je le répète au cours des dernières semaines. Jésus a dit, « Celui qui boira de cette eau dont je vais donner, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et ce que je vois dans ce chapitre-là, c'est une abondance de vie. Voici comment je résume l'exposé de ce matin. Par la miséricorde de Dieu, l'Évangile transforme notre adoration, notre vie d'Église et même notre manière d'aimer nos ennemis. On parle d'être vivant, d'être éveillé, d'être en train d'offrir un service d'adoration. Ces temps, lorsqu'on vient dans la louange puis on vient chanter, devrait en quelque sorte être une illustration de mon quotidien. Je ne passe pas ma vie à chanter, je ne passe pas ma vie à chanter à tout moment, à tue-tête au travail, mais ma vie devrait être le reflet d'une louange profonde qui m'habite. Et c'est ça que je vois ressortir de ce passage-là. On parle de sacrifice vivant, on parle d'un service d'adoration, on parle d'un culte raisonnable, intelligent, spirituel. Donc, je reviens avec ma question. Est-ce que tu dors au gaz? Est-ce que toi, personnellement, tu dors au gaz? L'espoir, est-ce qu'on dort au gaz ici? Ou est-ce qu'on est éveillé vraiment? Premier élément que je veux faire ressortir du passage, une adoration intelligente. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, soit l'Évangile, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un culte intelligent, une adoration qui plaît à Dieu, qui est sensée. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a donc quelque chose à comprendre. Je suis censé être renouvelé dans ma manière d'envisager le monde, la vie, le quotidien, mes relations, le renouvellement de l'intelligence, une adoration, un service à Dieu qui est intelligent selon Dieu. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. Encore une fois, c'est l'intelligence. Pour que je sois rempli de discernement, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On aurait pu dire, le chapitre 12, Paul nous enseigne ce que c'est que de ne plus être sous la loi, mais sous la grâce. Paul nous enseigne ce que c'est de ne plus être sous la loi, mais rempli de l'Esprit. Paul nous enseigne ce que c'est de ne plus venir à Dieu avec un rapport de crainte malsaine d'un Dieu qui te surveille, mais au contraire être rempli d'une joie qui déborde. Une adoration intelligente. Et Paul commence en nous disant que le siècle présent veut te former. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul est en train de dire que si tu comprends l'Évangile, si tu saisis l'Évangile, Dieu aiguise ton intelligence pour qu'en toutes circonstances, que tu sois en train de vivre n'importe quoi, au travail, à l'école, dans les relations, peu importe, lorsque tu te regardes dans le miroir, quand tu gères tes finances, quand tu navigues sur le web, n'importe quand, tu sois rempli d'une connaissance de ce que Dieu aime, de ce qui est bon, agréable et parfait. Paul nous exhorte, nous qui sommes chrétiens, à ne pas se conformer au siècle présent. Il est en train de dire, soyez pas des moutons. Je me souviens encore, pendant la pandémie, la vice-première ministre avait fait une bévue. Elle avait voulu faire un compliment aux Québécois en disant, les Québécois sont faciles à diriger pendant la pandémie, ils sont dociles. Ouf, ça n'avait pas bien passé. Ouais, c'est vrai. C'est très vrai. Et nous ne sommes pas appelés à être dociles à personne d'autre qu'à Dieu. Ne soyez pas des moutons. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Au Québec, qu'est-ce que ça veut dire suivre la pensée du siècle présent? Me laisser former par l'écran avant d'être formé par Dieu? Croire que ma valeur dépend de mon image? Ça, c'est le siècle présent. Confondre liberté et autonomie absolue? Ça, c'est le siècle présent, là. C'est le Québec. Adopter une foi privée, prudente, presque invisible. Ah, ça, c'est l'ère du temps. C'est l'ère du temps. Soyez invisible. C'est intéressant, j'étais en train de méditer sur le passage, puis je voyais à quel point... Il n'est pas question dans ce passage-là d'annoncer l'Évangile verbalement. Pas une seule fois. Ça parle de style de vie, de réaction, de comportement, d'attitude. Là, je pensais à la loi C8, si vous avez suivi un peu C9, qui met plusieurs contraintes quand même. Puis je disais, Romains 12, puis je disais, même la loi C9 n'est pas contre ces choses. Tu peux vivre Romains 12 à fond la caisse et tu vas être une énigme pour les gens autour de toi. Parce que la louange que tu chantes le dimanche matin ici, ils vont le sentir dans tes comportements, dans tes agissements. Ta vie va être littéralement une louange à Dieu qui va semer une énigme. Et comme l'apôtre Pierre le dit, sois prêt à rendre compte lorsqu'on posera la question, mais c'est quoi cette joie-là qui est en toi? C'est quoi cette espérance-là que je trouve en toi? Moi, je pense que l'Église n'est pas éveillée autant qu'on pense l'être. Je pense que le siècle présent ressemble à un enchantement discret qui nous endort, pas d'un seul coup, il nous berce doucement, spécialement le confort. On aime ça être confortable, les Québécois, je vous le dis. Et tu sais que tu es en train de devenir Québécois si tu commences à aimer le confort. Il y a beaucoup de gens ici qui commencent à être Québécois. Vous commencez vraiment à devenir Québécois parce que vous commencez vraiment à aimer le confort. Le siècle présent nous apprend quoi désirer, quoi craindre, perdre mon confort, craindre d'être inconfortable, quoi admirer, quoi défendre, quoi publier, quoi acheter. C.S. Lewis qui a écrit les Chroniques de Narnia, un brillant romancier, mais un brillant penseur chrétien, je trouve qu'il exprime très bien ça lorsqu'il dit « Nous avons besoin du charme le plus puissant pour nous réveiller de l'enchantement mauvais de la mondanité. » La belle au bois dormant avait besoin que son prince charmant vienne l'embrasser. Christ est venu, l'espoir. Il t'a embrassé, l'espoir. On n'a plus de raison d'être endormi. Le prince charmant est venu, il a donné sa vie pour nous afin que nous soyons éveillés, que nous soyons différents du siècle présent. Pareil comme dans cette histoire de la belle au bois dormant, tout un royaume peut sembler vivant, organisé, occupé, et pourtant dormir profondément sous un charme, celui du confort, celui de ne pas vouloir déranger. Moi, je soupçonne l'Église de témoigner beaucoup moins que dans les années 70, dans les années 80, où tu te faisais virer de bord si tu commençais à parler de la foi. Il y a beaucoup plus d'ouverture que ça aujourd'hui. Et pourtant, l'été arrive, puis on est encore frileux. On est encore frileux. On a peur de déranger, on a peur des inconforts, on a peur de bousculer un peu en parlant de ce qui nous habite profondément. Par les compassions de Dieu, Christ ne vient pas nous écraser par une nouvelle loi, mais nous tirer du sommeil de la mondanité. Il renouvelle notre intelligence, il rallume notre adoration, Il nous replace humblement dans le corps de l'Église, puis il nous conduit à aimer nos ennemis. C'est ça l'œuvre que Jésus-Christ vient faire en nous. Regardez, Paul parle de la miséricorde de Dieu qui vient transformer notre adoration. Je vous exhorte donc, ce mot-là, c'est tout le lien avec tout ce qui précède avant. Hein? Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu. Les deux premiers versets du chapitre 12 sont le fondement de tout le chapitre 12 et ils reposent uniquement sur l'évangile de Jésus-Christ. Parce que jusqu'ici, tout ce que Paul a fait, du chapitre 1, verset 1, jusqu'à la fin du chapitre 11, il a exposé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il dit donc, je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, sains et agréables à Dieu. Est-ce que tu dors au gaz? Les compassions de Dieu, c'est l'Évangile. Motivé par l'amour de Dieu, ton esprit est aiguisé à discerner ce qui est bon. Au verset 2, il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Paul me dit que l'Évangile vient changer mon rapport au quotidien et aiguise mon jugement pour que je puisse assez intuitivement savoir c'est quoi la bonne chose à faire. C'est quoi la chose qui va être agréable à Dieu et qui va porter un parfum de Christ. Qu'est-ce qui va être parfait? Le mot parfait qui est là, c'est moralement parfait, mature. L'Évangile m'enseigne ces choses-là. Parce que l'Évangile me parle d'un Dieu qui est venu mourir sur la croix pour mes péchés, qui a renoncé à son confort, à sa gloire, et qui est venu se charger de mon péché. Dieu nous réveille par sa miséricorde et nous libère du charme de ce monde. Il nous remet debout devant lui. Il nous apprend à aimer nos frères et sœurs et nous rend même capable de surmonter le mal par le bien. L'Évangile nous réveille. Est-ce que toi, tu dors au gaz? Est-ce que l'Évangile t'a déjà réveillé? Est-ce que tu as saisi l'Évangile de Christ? Est-ce que tu as été embrassé par Christ? Ce moment où l'Évangile n'est plus quelque chose de théorique, la foi de tes parents, la foi de tes amis, la vieille foi chrétienne, et ça devient quelque chose d'intime et personnel, comme on l'entend chaque fois qu'on a des baptêmes. Dans les témoignages, c'est ça qu'on entend. C'est cette rencontre qui devient très personnelle, ça devient passionnel, parce que l'Évangile devient personnel, ça devient pour moi. Oui, c'est pour tous les hommes, mais maintenant, c'est pour moi. Christ m'a embrassé, m'a sorti de mon sommeil, de mon engourdissement, pour semer en moi une passion nouvelle, une vie nouvelle, un zèle nouveau. Et c'est ça qui découle de tout ce chapitre-là. Une adoration intelligente. Deuxièmement, l'Église est l'atelier de transformation. Une fois que tu as l'Évangile dans ton cœur, où est-ce que Dieu va te former? Où est-ce que tu vas être transformé? Où vas-tu apprendre à vivre cette passion-là? Tu t'éveilles, tu découvres la vie. Où est-ce que tu vas l'apprendre? C'est dans l'Église. C'est dans la communion avec l'Église qu'on trouve notre atelier de formation, notre atelier de transformation. Dans une communion, dans une communauté avec des gens qui ont aussi été éveillés par l'Évangile. Et parce que l'Évangile m'a éveillé, je veux apprendre avec les frères et sœurs, je veux échanger avec eux, je veux discuter avec eux. Lorsque l'Évangile vient me bousculer sur mes relations au travail, dans ma vie de couple, avec mes enfants, je veux discuter avec d'autres personnes qui ont reçu l'Évangile. Et donc, dans l'Église, dans la communion avec l'Église, en servant ensemble, c'est là que je trouve cet atelier de transformation. Alors que tu t'investis dans des relations riches dans l'Église, alors que tu sers avec tes talents, avec tes dons que Dieu t'a donnés, Dieu te transforme. Versets 3 à 5. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. » Ça, c'est pas la pensée de l'époque. Non, les sentiments modestes dans la pensée de l'époque, c'est quand tu trouves que tu es un loser, quand tu as honte de toi. Le chrétien n'est pas appelé à la honte. Toute ma honte a été déposée sur Christ. Et j'ai une modestie qui vient de ma reconnaissance. J'ai une modestie qui est saine. Je n'ai pas besoin de me diminuer. Je suis un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu si tu es en Jésus-Christ. Co-héritier, co-héritière avec Christ. Ma modestie vient de l'Évangile. Mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun, parce qu'à chacun, Dieu donne des dons, Dieu donne des talents, Dieu t'a donné des ressources pour servir. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Jésus-Christ, en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Il va revenir là-dessus au verset 16. « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Dieu t'a donné des dons. Dieu t'a donné des talents. Si tu es en Jésus-Christ, Dieu t'a donné des ressources. Il t'a donné du temps, il t'a donné de l'argent, il t'a donné peut-être une maison, peut-être un logement. Et toutes ces choses-là, lorsque tu les mets au service du corps, de l'Église, ça devient ton atelier de transformation, où tu apprends à avoir une adoration intelligente, un service d'adoration qui plaît à Dieu, qui porte le parfum de Christ. Le dimanche matin, on peut faire beaucoup de la vie d'Église, mais en même temps, on peut faire très, très peu de la vie de l'Église. Parce que l'Église, c'est beaucoup plus que ça. L'Église est vivante toute la semaine. Et si ta communion avec l'Église se résume au dimanche matin, honnêtement, je pleure sur ta foi. C'est tellement plus que ça. Cette semaine, lorsqu'on était dans notre groupe Connexion, on a partagé des choses ensemble. Lorsqu'on était réunis, les anciens, le week-end dernier, et qu'on priait ensemble pendant des heures, on a partagé des choses ensemble dans la prière. Lorsque j'ai pris du temps avec un jeune homme cette semaine pour parler de ce qu'il est en train de vivre dans son foyer, dans sa maison, pour développer du discernement qui vient de la parole de Dieu, on a eu des discussions profondes ensemble. Dieu t'a donné des dons, des talents, des ressources pour que tu les mettes au service du corps. Et sois attiré par ce qui est humble, parce que c'est utile, parce que c'est bon, parce que c'est riche. Dietrich Bonhoeffer a dit ceci, un pasteur allemand, décédé maintenant avec le Seigneur, écrit ceci, « Nous sommes membres d'un corps. » Écoutez bien ceci, « Chaque membre sert tout le corps, soit pour sa santé, soit pour son détriment. » Si tu es chrétien, tu fais partie du corps. Tu peux être une patte lousse qui est plus ou moins utile ou tu peux te mettre au service. À ce point-ci, vous savez que je fais un peu d'escalade. Hein? J'en parle assez souvent. Là. Vous savez, les tendons, c'est quelque chose d'absolument invisible. T'sais, tu ne vois pas des gars qui font du bodybuilding puis qui montent leurs tendons. Pas tellement, tu sais. Juste comme tendon d'Achille. Checker mon tendon d'Achille. Pas tellement. Mais c'est vraiment utile, je peux vous le dire. Il y a 2 semaines à peu près, j'étais en train de faire une grimpe, toute simple. Puis j'ai une poulie ici, ça fait partie des tendons, qui n'a pas bien répondu à ce que j'ai fait. Fait que depuis 2 semaines, quand je veux forcer, là, bien, ça c'est le maximum que je peux faire, puis ça fait vraiment mal. Et donc depuis ce temps-là, ce petit bout-là complètement invisible, qui peut sembler complètement inutile, je passe mon temps à lui donner de l'affection. Ah, il a toute mon attention, parce qu'il est une nuisance infinie dans mon plaisir de grimper. Il est une nuisance terrible. J'ai hâte de l'oublier. J'ai hâte qu'il retrouve son humilité. J'ai hâte qu'il disparaisse, qu'il arrête d'attirer l'attention sur lui. Et pour l'instant, il veut toute mon attention, constamment, sans arrêt. Et je lui donne l'attention qu'il a besoin, parce que j'ai besoin qu'il retrouve ses fonctions. Si tu es un enfant de Dieu, tu fais partie du corps. Et Dieu t'a donné des dons, des talents pour servir Dieu. Dieu t'a donné des ressources. Dieu t'a donné des ressources financières. Il t'a donné du temps. Il t'a donné une maison. Il t'a donné de l'expérience dans la vie chrétienne. Arrête de reporter à demain ou à confier au pasteur le mandat d'ouvrir la Bible avec quelqu'un. Potentiellement que tu connais la Bible autant que moi. parce que ça fait des années que tu lis la Bible tous les matins. Maintenant, je m'arrête quelques instants sur la série d'exhortations tellement pratiques que Paul va donner. Je trouve ça fascinant. Ce que j'aimerais que vous fassiez cette semaine, honnêtement, c'est que vous lisiez et relisiez Romains 12. Vous n'avez même pas besoin de commencer à faire des études en grec, simplement le lire. Ça fait du bien à l'âme. Tu as envie de bouger pour Jésus-Christ. C'est tellement formulé avec joie, avec abondance. Ce qui me frappe, c'est l'intensité, la joie, l'affection que je vois ici. Que l'amour, verset 9, soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Verset 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Honorez-vous les uns les autres. Verset 11 à 14, ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints. Un chrétien travaille pour pourvoir aux besoins de sa maison, et il travaille pour pouvoir faire le monde. Vous savez ça? Le monde, c'est aider ceux qui sont dans le besoin. Un chrétien travaille pour ça. Pour voir aux besoins des siens, évidemment. Mais après ça, avoir plus encore pour pouvoir aider les gens qui sont dans le besoin. C'est profondément chrétien comme comportement. Profondément. Ne soyez point sages à vos propres yeux. De manière pratique, aux ados ou aux jeunes adultes, que votre amour soit sans hypocrisie, jusque dans vos messages, vos blagues, vos stories, vos silences. Refusez de construire votre identité en rabaissant quelqu'un d'autre. Aux couples en fréquentation, attachez-vous fortement au bien. Ne demandez pas à l'autre de nourrir vos désirs, mais encouragez-vous déjà à servir Christ avec pureté, honneur et patience. Aux jeunes parents, soyez fervents d'esprit. Mais patient dans l'affliction, la fidélité de Dieu se voit aussi dans une nuit écourtée, dans une couche changée, dans une prière murmurée, dans un enfant accueilli avec douceur. Aux travailleurs, aux étudiants, ayez le mal en horreur et attachez-vous au bien. Dans votre milieu, refusez la paresse, les compromis faciles, les paroles doubles, les ambitions qui écrasent les autres. Aux membres plus âgés, surtout à ceux qui prennent soin d'un conjoint fragile, réjouissez-vous en espérance, persévérez dans la prière, pleurez avec ceux qui pleurent. Votre service caché, coûteux, fidèle, est une offrande précieuse devant Dieu. Amen. Est-ce que tu dors au gaz? Est-ce que Christ t'a embrassé? Ou est-ce que tu dors encore au gaz? Et Paul va aller plus loin. La volonté bonne, agréable et parfaite, nous instruit même dans nos rapports les plus difficiles avec ceux qui nous blessent, ceux qui nous font souffrir. Ce qui est bon, agréable et parfait, c'est de ne pas rendre le mal pour le mal. On a parlé d'une adoration intelligente, on a dit que l'Église était l'atelier de transformation. Maintenant, Paul nous dit que le test ultime, c'est comment je me comporte avec mes ennemis. C'est le test ultime de cet éveil que produit l'Évangile en nous. L'ennemi est le test ultime de l'adoration. Un culte raisonnable, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, une adoration qui lui plaît, se mesure dans mes rapports avec mes ennemis, avec ceux qui me font souffrir, consciemment ou non. Plusieurs d'entre nous ont dit, OK, on n'a pas d'ennemis. OK, parfait, ça veut dire que tu es cool avec tout le monde. Non, mais moi, je n'ai pas d'ennemis, ça veut dire que tu es en paix avec tout le monde. Si tout le monde, c'est tes amis, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a personne que c'est comme, tu sais, tu préférais pas lui parler aujourd'hui. Mets-le dans tes ennemis, ça va être plus simple, OK? Soyons honnêtes. Je veux dire, au moins, tu vas savoir quoi faire avec. Non, lui, c'est pas que je ne l'aime pas, je fais juste l'éviter. Le problème, c'est qu'il n'y a personne que tu es appelé à éviter comme chrétien. Personne, personne, personne. Bon, à part le diable, d'accord? Mais personne, aucun être humain. Donc, si tu n'as pas d'ennemis, pense à tous ceux que, ben, tu sais, tu gagnes 2 billets pour un match du Canadien, c'est pas lui que t'inviterais, mettons. Ça va? ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Surmonte le mal par le bien. Verset 17-18, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et voyez-vous, c'est là qu'on abandonne. Moi, j'en ai fait assez. Non, tu peux en faire plus, autant que ça dépend de toi. Sois en paix avec tous les hommes. Ah, écoute, j'ai fait mon bout. Ouais, mais c'était quoi le bout avec Jésus? C'est 1 000 de plus, présente l'autre joue, transporte ses bagages encore une fois. Je veux dire, Jésus a fait son bout. Il est mort sur la croix. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ah, tu as peut-être un repas à préparer cette semaine. Bon, si vous venez tous me porter des repas cette semaine, je vais me poser des questions, d'accord? Mais peut-être que tu as un bon plat à préparer à quelqu'un. Peut-être que tu as un bon repas à partager avec quelqu'un. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tente, sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et il y a quelque chose de super important dans ce passage-là. Au début de la semaine, je ne sais pas pourquoi, je suis parti sur une fripe. Je révisais mes connaissances d'autres religions. Je dis, OK, je vais aller juste revoir, parce que souvent j'en parle, puis je ne veux pas dire n'importe quoi. Puis je revoyais un peu les fondements du bouddhisme, cette notion de détachement. Hein? Tout va finir par passer, je suis appelé à me détacher. Ce n'est pas la vision chrétienne du monde. Je prétends, même si la vision chrétienne du monde demande de la foi, qu'elle est beaucoup plus réaliste. Il y a beaucoup de choses qui se font en ce monde qui demandent la justice. Et je ne suis pas appelé à me détacher de tout ce qui se passe autour de moi. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus terrible que de voir quelqu'un se faire agresser et voir des passants continuer à circuler? Vous avez déjà vu des vidéos comme ça, hein? Ah, moi, je suis détaché. C'est ça? C'est ça l'idée? Non, le chrétien réclame la justice. Je veux la justice. J'attends la justice. Miroslav Volf, un théologien contemporain d'origine croate, a dit ceci, « La pratique de la non-violence exige une croyance en la vengeance divine. » C'est parce que je crois que Dieu va exercer la justice un jour que je décide de la laisser entre les mains de Dieu. C'est important, ça fait partie de notre vision du monde. Je crois profondément que Dieu va rendre justice pour tous les viols, tous les mensonges, tous les vols, tous les abus. Dieu va rendre justice. Et en fait, Dieu appelle par sa grâce tous les hommes à se tourner vers lui avant de rendre des comptes devant le juste juge. Non, je ne crois pas que tout va bien aller pour tout le monde de l'autre bord. Je ne crois pas ça, parce que je crois dans la justice. Tout en moi réclame qu'il y ait de la justice qui se fasse. Lorsque je m'informe, lorsque je regarde l'état du monde, je veux la justice. Et j'y crois profondément. Mais je fais le choix comme chrétien parce que j'ai été touché par la compassion de Dieu envers moi, la grâce de Dieu envers moi, le fait que Dieu a décidé de me faire grâce et de livrer la justice que je méritais, le juste châtiment sur Christ. Je prends la décision à ce moment-là de surmonter le mal par le bien. Et certains d'entre vous, vous avez des devoirs à faire cette semaine. Quand je te pose la question si tu dors au gaz, tu dis non, je ne dors pas au gaz, mais peut-être que oui. Peut-être que oui, peut-être qu'il y a des relations qui ont été négligées. Je ne l'haïs pas, c'est juste que ça fait 6 ans qu'on ne s'est pas appelé. Ce n'est pas ce que Paul nous exhorte à faire. Je veux dire, Dieu aurait pu la faire, celle-là. Je ne les haïs pas. Non, il est venu mourir sur la croix pour toi et moi. Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à aimer vos ennemis, à bénir ceux qui vous maudissent, à faire du bien. On va parler de hockey 2 minutes. On n'est pas des experts. Ah, OK, fait que je pourrais dire des niaiseries. J'ai déjà parlé d'un sport ici, puis je me trompais entre le basketball et le baseball. Fait que je veux juste être très honnête avec vous, là. Mais Mais dans les séries, je suis un fan du Canadien. Avec mon épouse, on regardait un des matchs, puis Esther me faisait observer comment, après le match, parce qu'on admettra que un des beaux côtés du hockey, c'est qu'on peut s'échanger quelques coups de poing aussi. j'aime des sports un petit peu plus rough que le hockey. Fait qu'il y a des choses que j'apprécie au hockey. Mais malgré tout ce qui se passe sur la glace, après, lorsque le match est fini, vous avez vu comment les joueurs se comportent? Et des journalistes soulevaient ça dans la première round qu'on ne t'aime pas. Quand la série s'est terminée, comment les joueurs échangeaient ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu t'es pris la tête, vers qui tu dois aller pour surmonter le mal par le bien? L'espoir, est-ce que tu dors au gaz? On va se préparer à prendre le repas du Seigneur ensemble. J'ai demandé aux musiciens de venir me rejoindre. Et pour nous, le repas du Seigneur, c'est un temps précieux. C'est un temps précieux parce qu'on prend le temps de se recueillir en réfléchissant aux compassions de Dieu. Littéralement. Le pasteur Basile va venir, puis on va méditer ensemble sur les compassions de Dieu manifestées à la croix. Je ne sais pas qui va écouter le match ce soir. Je soupçonne qu'il y a quelques personnes qui vont l'écouter. Et une des choses qui va vraiment nous intéresser dans le match ce soir, c'est de voir si le Canadien est réveillé ou s'il dort au gaz. Littéralement, ça va être ça. On va regarder le jeu puis on va dire, mes amis, ils ne sont pas dedans. Oui, ils sont dedans. Ils sont réveillés. Et moi, je vous invite, si vous regardez le match, à vous poser la question, est-ce que l'espoir, est-ce que ta foi est aussi éveillé que le Canadien sur la glace ce soir. Dans des finales, dans des séries, où est-ce qu'on dort au gaz? Parce qu'on vit à une époque absolument extraordinaire, où on a énormément de liberté pour briller pour l'Évangile. On vit au Québec, on a énormément de liberté, nos conditions sont bonnes. Je sais que l'inflation est élevée, je sais qu'il y a des choses difficiles, mais honnêtement, on devrait tous manger aujourd'hui et en principe, personne ne va dormir dehors. Et on va avoir la liberté de parler de Christ à qui veut bien l'entendre, sans être jeté en prison. Est-ce que tu dors au gaz? Ce que Dieu t'appelle à faire, c'est à offrir ta vie comme un sacrifice vivant, passionné. L'Évangile vient te réveiller dans ton sommeil. Est-ce que tu es la belle au bois dormant ou est-ce que tu es en feu pour Christ? Rempli de l'esprit, rempli d'amour, rempli de discernement pour chercher toute opportunité cette semaine à faire le bien, à racheter le temps parce que c'est le temps maintenant de vivre pour Jésus-Christ. Amen. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence pour te célébrer, pour t'adorer en Église ce matin. On est reconnaissant, Seigneur, pour ce passage de Romains 12 qui nous interpelle, qui nous met au défi de vivre une vie d'adoration pour toi qui soit vivante, qui soit vraie, qui soit entière, Seigneur. Rien de doctrinal et théologique, théorique, pas simplement une belle profession de foi, mais une vie qui porte un parfum de louange, un parfum d'adoration au quotidien. Que les gens qui nous côtoient perçoivent en nous une espérance vivante, présente en nous, Seigneur. Seigneur, parle-nous alors que nous nous arrêtons avec le pasteur Basile pour prendre ce repas, prendre ce mémorial. Seigneur, on t'en prie de tout notre cœur, viens nous réveiller si nous dormons. Viens parler à nos cœurs ce matin. C'est en Jésus que nous te prions. Amen.